De l'amour, de la sagesse, non.
Et ben, ils ont de l'amour, oui, mais la sagesse, là, c'est pareil. Donc ils cherchent la vérité. Et bien tous ces gars qui cherchent la vérité, puis qui réfléchissent, Socrate, et puis qui aident les autres à dire à tout, arrête avec ça.
Oui, il y a un vrai débat.
Pose-toi une bonne question, puis ne fais pas perdre du temps à tout le monde en racontant des trucs qui sont à côté de la plaque. Il faut chercher la vérité quand même. Tu n'es pas honnête dans ta recherche de la vérité, Socrate. Voilà, et puis Platon, et puis Aristote, il y a quand même des idées pures, quand même. Il y a des idées non mélangées, ça c'est Platon. Il y a une idée de la vérité, il y a quelque chose, il y a dans et puis de l'amour aussi, et puis dans le bien, et puis dans l'unité des choses. Il y a quand même quelque chose, et on peut quand même vivre de ça, et regarder ça, et puis... en faire une science, quelque part, en faire une... On est sûr que ça, c'est pas dans la direction de la vérité. Et on appelle ça... Et puis Aristote aussi, à partir de l'essai, à partir de l'être, de ce qui existe. Quand tu dis j'existe, j'existe. Quelqu'un dit je suis, j'existe. C'est quoi le est? Quand quelqu'un ceci est, c'est quoi est? Il y a quoi dedans? Là, tu peux pas toucher, là, tu peux pas tricher, là. Donc, donc ça s'appelle la métaphysique. C'est pour ça que ta fille appelle ça la métaphysique. Voilà. Bon, ben, il y a des tas de philosophes, des tas d'Orient, d'Occident, des gens qui cherchent la vérité. Alors, en Orient, par exemple, tu prends l'Orient, la sagesse orientale, c'est une sagesse qui dit ah, non, c'est pas là. C'est pas là. Non, non, c'est pas là. C'est pas là. Et finalement, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça devient une sagesse. Ça devient la philosophie du vide, parce que tu fais le vide de tout ce qui n'est pas.
Il n'y a plus rien à faire.
Tout ce qui n'est pas les purs, quoi. Alors là, ici, tu as l'épître de Colossiens qui dit, attends, ça, la sagesse du vide, c'est zéro, ça.
Ah, c'est ça.
C'est ah, zéro, la sagesse du vide, c'est zéro, je fais le vide,
ah, et du coup, les Colossiens disent ça.
Il n'y a plus rien d'autre que le vide, ça y est, tu y es, quoi. Dans l'humanité, il y a plein de gens qui cherchent la vérité, et ben ça, la sagesse. Et puis, le Concile Vatican II, il arrive, et puis, en 1870, et puis il dit, voilà, après avoir défini l'Immaculée Conception, le dogme qui est venu après, c'est de dire la vérité, bien sûr, on peut l'atteindre, on peut la communiquer, et elle a son infaillibilité, elle a une source d'infaillibilité et de jugement dans l'infaillibilité. C'est la grâce du pape. Et en même temps, c'est le même concile qui dit, parce que ça va ensemble, que l'intelligence, même si elle n'a pas le pape, elle ne connaît pas le pape, elle ne sait pas ce que dit le pape, elle ne sait pas ce que dit l'Église, elle ne connaît pas la doctrine infaillible de l'Église, elle ne connaît pas cette sagesse surnaturelle complète, elle peut. Une intelligence humaine, elle peut quand même, même sans la Bible, même sans la foi, elle peut quand même commencer à creuser, à s'avancer, à toucher des parcelles, comme dit ta fille, de la vérité. Dans toute philosophie, il y a des parcelles de la vérité. Donc tu rentres dans la vérité, tu peux t'avancer, et même tu peux atteindre, sans la foi, sans l'aide de l'infaillibilité, sans l'aide de la grâce venue du ciel, pour transformer ton intelligence, avec tes propres forces humaines, si tu as un cœur pur, si tu travailles, tu peux atteindre en vérité
l'existence. À partir des choses réelles, peut-être.
L'existence de Dieu.
L'observation de la réalité, peut-être.
Tu peux atteindre l'existence de Dieu. Tu peux toucher la preuve, tu peux toucher Dieu dans son existence. Tu peux toucher le fait que Dieu existe, l'existence de Dieu. Ton intelligence peut aller jusqu'à la vérité de l'existence de Dieu unique, enfin, et de l'existence de ce Dieu unique. Et à partir de là, tu as une lumière, si tu rentres dans ce toucher que tu viens de faire, et bien, bien sûr, à ce moment-là, ton intelligence, elle est drôlement éclairée, parce que elle peut revenir aux choses de la Terre avec une nouvelle lumière, quand même. Donc ça, c'est le Concile Vatican I. En même temps qu'il donne une infaillibilité, en même temps, il dit l'intelligence humaine a une certaine infaillibilité. Il y a une certaine infaillibilité naturelle de l'intelligence humaine dans laquelle s'inscrit la lumière surnaturelle et divine de l'Esprit Saint et du Père et du Fils et du Verbe de Dieu et du Christ dans l'Église qui donne l'infaillibilité de l'Église. Parce que le monde surnaturel de l'infaillibilité de la vérité en elle-même, communiqué, exprimé, eh ben, s'inscrit dans un support naturel qui est l'infaillibilité de l'intelligence. Elle peut, ils n'y arrivent pas tous, loin de là, toucher l'existence par voie démonstrative, hein, capable de toucher, d'atteindre réellement hein, la vérité et le réel même aussi de l'existence de l'être premier que les religieux appellent Dieu. Quand les deux se conjoignent, ben ma foi, c'est excellent. Alors ça, moi les deux se conjoignent, c'est quoi? C'est et le Père Marie II, il dit, mais finalement, eh ben, il y a la philosophie, qui cherche, jusqu'à la métaphysique, jusqu'à l'être, jusqu'à l'existence. Et puis le plus loin qu'elle puisse aller, c'est l'induction de Nousia, et puis l'induction de l'énergia. Donc la cause selon la fin de ce qui est en tant qu'il existe. Et puis à partir de là, tu vois les modalités, tu fais une philosophie métaphysique, tu peux faire une philosophie de la personne, etc. Mais il y a à côté de ça, un autre monde philosophique, un autre univers philosophique. C'est l'univers philosophique de ceux qui ont touché l'existence de Dieu, par voie démonstrative, peuvent du coup pénétrer avec leur intelligence à l'intérieur de l'un, de l'unité lumineuse de l'existence de Dieu, du bien en soi, de la vérité en soi, qui est Dieu, et de redescendre et de contempler les choses dans une sagesse qui est, dans une sagesse qui est divine, mais qui est naturelle. Et puis, il y a la petite Thérèse, et puis il y a la petite Bernadette, et puis qui, eux, ils rentrent dans le Saint-Esprit et ils rentrent dans le monde surnaturel de Dieu. Donc il y a trois sagesses. Et chacune a son... Chacune, c'est un monde pas clos, mais c'est pas la même chose. C'est pas faux. Quelque part, c'est pas faux. Mais le Père Marie II, il a tiré tellement sur ce fil-là que du coup, écoutez, si vous voulez vraiment être entièrement pur déjà sur le plan naturel, eh bien faites la première sagesse. La sagesse naturelle philosophique d'Aristote. Voilà. Et faites la deuxième sagesse si vous voulez avoir une espèce de d'épanouissement, de vertu. De religieuse, quoi, de votre lien avec le Créateur, du Créateur avec tout ce qui existe. Enfin, faites maintenant, consacrez votre vie à l'oraison pour rentrer dans la sagesse surnaturelle chrétienne. Voilà, donc il y a trois écoles, trois cours, quoi. Et puis le pape, il a dit, mais il a tiré un peu le fil parce qu'il a dit, ça c'est l'anos, c'est l'intelligence qui fait ça. L'intelligence, et plus elle se purifie dans la première sagesse, plus c'est facile pour elle de rentrer dans la deuxième sagesse, plus la lumière surnaturelle de la vérité peut pénétrer dans les profondeurs de l'intelligence humaine qui est ainsi purifiée, pour qu'elle devienne plus contemplative et qu'elle puisse plus mieux exprimer la vérité des choses.
C'est vrai ou non?
Parce que c'est
rien, c'est vrai, c'est arrivé tout de suite, sans passer par la première sagesse.
Oui, non, bien sûr que c'est vrai ce qu'il dit. Il en fait, et du coup, il en fait une... Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit ça, c'est l'intelligence. Et ben, il a dit ce qui est valable pour l'intelligence, c'est pareil. Ça se comprend, du coup, si tu es dans la première sagesse, tu as une sagesse humaine qui a sa perfection, qui est un tout en soi. Et donc elle va illuminer notre cœur, notre deuxième puissance spirituelle, et elle va pouvoir faire développer les lois profondes de la perfection de l'amour humain, l'amour d'un homme, un être humain lorsqu'il aime, l'amour d'amitié, l'amour... voilà. Et si tu respectes, si tu découvres la vérité de l'amour dans un être humain qui aime, dans un amour d'amitié, eh ben, il faut en faire la philosophie, et il faut éduquer les gens, et il faut qu'ils aient jusqu'au bout des vertus, du chemin qui y correspond. Mais tu pourras pas aller beaucoup plus loin qu'un amour d'amitié, de toute façon. Voilà. Donc maintenant, ce sera une autre démarche que de dire, voilà, mon amour, mon cœur, il peut se déployer aussi dans l'amour de Dieu, à travers l'adoration du Créateur. Hein, sagesse religieuse, amour, l'éthique religieuse. Et l'éthique religieuse, il y a l'humilité, il y a des vertus qui sont spécifiques à l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, l'esprit de... je sais pas, il y a toute une sagesse du bien en soi, de l'unité en soi, de l'au-delà du temps, qui s'épanouit en moi dans l'amour, et tout ça. Et puis, je vais avoir une éthique aussi chrétienne de la charité et de l'agapé, qui est l'amour vraiment divin, surnaturel, divin, venant du Saint-Esprit, venant du Père, du Fils, du Saint-Esprit, venant des mystères divins et surnaturels chrétiens. Mais c'est des déploiements du cœur qui sont voulus pour chacun pour eux-mêmes. Donc il y a le bien naturel, le bien divin naturel et le bien divin surnaturel. Et ces trois biens structurent toute une philosophie de l'éthique. Il y a une éthique pour elle-même, une éthique religieuse et une éthique de la charité divine. Donc il y a trois éthiques. Alors là, le pape a dit non, désolé, il n'y en a qu'un. Le bien, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas trois. Vous ne pouvez pas dire ça, parce que si vous dites ça, ben, du coup, je développe effectivement, par exemple, alors c'est ce que j'explique dans ce que vous m'avez écouté dire, j'explique ça, que ben, du coup, on a tellement développé l'éthique de l'amour d'amitié humain pour lui-même, voilà, que du coup, tu en fais un discernement, tu en fais aussi une direction spirituelle. Tu dis, ben, puisque c'est un amour d'amitié, vas-y, fonce, mais tu ne dois pas avoir peur de l'amour d'amitié, tu dois aller jusqu'au bout de l'amour d'amitié.
Même si c'est entre deux hommes, ou deux femmes.
Peu importe, il y a différents degrés dans l'amour. Dès lors que c'est de l'amour d'amitié, ça va. Et donc, l'amour, entre autres, ça c'est une des conséquences, c'est dit que l'amour d'amitié, il est déterminé par ce fait que il y a la mise en commun et totale, profonde, dans les profondeurs, dans le bien, dans la lumière, tout ça. Voilà, on a entre nous un amour d'amitié très 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 authentique, très profond, et on a des critères, on a des signes. Comme quoi cet amour, c'est vraiment, et tout amour, voilà, et de sorte que l'amour, par exemple, entre l'homme et la femme, l'amour entre un homme et une homme, c'est la mise en commun qui détermine, donc c'est pas tellement le fait que ce soit un homme et une femme, ou un homme et un homme. Donc que ce soit un homme et un homme, c'est une des conséquences c'est que du coup, finalement, tout est fondé sur l'amour de similitude, finalement. Dans l'amour d'amitié vu comme ça, c'est de l'amour de similitude, et c'est pour ça que quelque part, ça a écarté la responsabilité. Ça a écarté l'amour de complémentarité, ça a écarté l'enseignement Jean-Paul II sur le... Et non, Jean-Paul II, il dit non, la sainteté, c'est directement lié à la Très Sainte Trinité, et il y a une analogie propre. Donc il y a un lien direct, c'est pas seulement vase communicant, c'est canal unique. Hein? Voilà. Et donc, si tu remontes un peu plus haut, les trois sagesses, alors du coup, le pape a fait Veritatis plein d'or, deux encycliques pour dire, attends, là, il y a un danger, là. Il y a un grave danger pour l'Église si on s'engouffre dans cette histoire des trois sagesses ou des trois éthiques. Et donc, il a fait deux encycliques pour corriger Marido. Mais Marido, il pensait avoir trouvé le sommet du sommet du sommet de la bonne doctrine, de la mauvaise doctrine, du critère, quoi. Voilà. Il pensait vraiment, les frères pensaient vraiment. Donc ils sont tombés très très haut. Hein, Enfin, ils sont pas encore tombés parce qu'ils sont encore convaincus, donc pour la plupart. Donc quand ils, si jamais ils écoutent un sanglier qui dit « Attends, je m'excuse, mais il y a une inversion métaphysique. » Quoi ? C'est quoi ça ?
Voilà. Ce qui est curieux, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en relation les problèmes qu'ils ont en interne avec la philosophie et l'enseignement.
C'est-à-dire que c'est ennuyeux, oui, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, le fait
de relations qu'ils ont.
Moi, ça fait 30 ans que je dis de c'est marrant, on a eu une bénédiction dans cette communauté philosophique, là. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus de bénédiction. On peut déterminer le jour, le mois et l'année, presque. C'est tombé. Dieu n'a plus béni. Pourquoi ? Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose, comme dit ta fille, qui est quelque chose de vrai, de toute façon. Il y a quelque chose de vrai. C'est quand même commode, quand, au niveau scolaire, universitaire, de dire, voilà, on va faire un cours sur l'éthique. Par exemple, Marido, il a quand même fait un truc qui est quand même... moi, je trouve ça complètement génial, quoi. Quand il a fait son bouquin, par exemple, « De l'être à Dieu ». Ces trois, deux ou trois tomes, là, « De l'être à Dieu », c'est-à-dire tout ce que les philosophes ont fait depuis 3000, 4000 ans, pour démontrer, enfin, pour toucher, pour pénétrer, pour être illuminé, pour assimiler, pour vivre de la vérité de l'être premier créateur de ce qui existe. Enfin bref, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, la démonstration de l'existence de Dieu. Et cette démonstration de l'existence de Dieu, une fois qu'on y pénètre dedans, parce que tu as les voies d'accès, et c'est vrai que si ton intelligence est purifiée par la précédente philosophie de la métaphysique, dans les cinq modalités de l'énergéia, je reconnais que c'est évidemment beaucoup plus facile de rentrer dans la mystique naturelle. Mais le pape a raison de dire ça, c'est une seule philosophie. Il y a une seule sagesse, en fait. Parce que si tu aboutis au terme, eh ben oui, mais il y a le péché. Alors elle dit...
au terme,
elle n'appelle pas ça le péché, elle m'a dit, mais... Mais il y a le péché, donc nécessairement, il y a une union à Dieu qui doit se faire par une sagesse qui se renverse elle-même pour tout reprendre. Voilà, la sagesse de la croix.
Il y a le péché et il y a les dommages collatéraux. Et on peut voir le péché parce qu'il y a les dommages collatéraux.
Et donc il y a une seule sagesse, c'est la sagesse chrétienne, parce qu'il y a le péché. Parce que c'est toujours tout le problème de l'aveuglement ou du fait que de la division ou de la séparation des sagesses, des éthiques, de tout ce que tu veux, c'est je cours un bien puis après un autre bien, c'est le péché.
On évacue le péché.
Si tu prononces pas le mot transgression, tu risques pas d'y voir clair.
Ouais, c'est ça. Il faut se reconnaître au péché. Et là le philosophe dit non, là on est dans la théologie.
Non.
Par rapport au péché originel.
Non, le philosophe, il reconnaît qu'il y a des fautes quand même, qu'il y a des... Le philosophe, il dit, non, ça c'est une erreur, ça c'est une faute, ça c'est un péché.
Mais par exemple,
non, mais il dit, attends,
non, son péché, elle n'est pas la même.
Écoute, si tu
trahis
ta parole, c'est un péché pour un philosophe. Non, le philosophe, il reconnaît qu'il y a des péchés. Il n'est pas idiot quand même, le philosophe, il reconnaît qu'il y a le mal.
Oui, mais c'est pas, les péchés n'ont pas la même existence selon les cultures.
Ah, par ça, exemple, chacun,
selon que tu es dans l'islam ou dans un monde bouddhiste, hindouiste.
Pour le philosophe, on parle de philosophe, je ne parle pas des religions, moi. De philosophie.
C'est philosophie, enfin, c'est pas vrai, remarque. C'est vrai que le bouddhisme et l'hindouisme sont des religions.
Non. Non, le péché. Le mal existe pour tout le monde, il existe le problème du mal.
Pour eux, l'origine du mal, c'est pas pareil.
Le philosophe, il va relier ça à la théologie, et du coup, il évacue cette histoire de péché ou de mal. Il peut pas en parler. Il peut en parler,
Si, si, il peut en parler. Si, si, ils en parlent tous.
Oui, mais bien sûr, c'est le problème qui chatouille tout le monde, finalement.
Ils en parlent tous, mais si tu ne vois pas clairement ce que c'est que le péché ou la transgression, tu vois plus clair du tout, puisque tu vois pas le lien, l'indissolubilité, si je puis dire, de l'infaillibilité, de l'intelligence et de l'infaillibilité, de la sagesse divine.
Du temps de Platon, il était reconnu par de nombreux philosophes, que chez les Grecs, en particulier les Romains aussi, que l'homosexualité c'est quelque chose de normal.
Ils disent pas que c'est quelque chose de normal.
Mais Platon,
ils ont la faiblesse ils ont la faiblesse, ils ont cette faiblesse, mais ils ne reconnaissent pas, ils ne disent pas que c'est quelque chose de normal.
Platon, c'est comme si comme ça.
Ah non, il ne dit pas que c'est quelque chose de
normal. Nous avait montré un texte de Mathilde, ça avait choqué Mathilde, elle nous avait montré un texte de Platon, qui trouvait ça normal. Oui, la pédophilie.
Oui, c'est normal parce qu'on le fait.
Allez.
Mais.
Il ne critiquait pas.
Non, mais il y avait. Non,
il ne critiquait pas. Pour lui,
c'était pas. Pour lui, c'était pas un péché.
Oui.
Non, parce que ça se faisait. C'est comme aujourd'hui l'avortement.
Donc ça veut bien dire que c'est culturel.
Comme aujourd'hui, tu fais l'avortement. Aujourd'hui. C'est un droit, et Macron, il veut l'inscrire dans la Constitution de la République.
Oui.
La Constitution.
Ça veut dire que le meurtre est constitutionnel. Oui.
Donc ça veut dire, on va dire, bah oui, mais c'est normal, hein. Je veux dire, on ne va pas critiquer l'avortement.
L'État le dit, donc.
Et là, à l'époque, c'était pareil. Donc, c'est normal, puisque ça fait partie de la vie.
Oui.
Et donc, mais...
C'est clair quand même pour voir que c'est un
Quand péché. Tu regardes bien... Quand tu regardes bien Aristote, etc., même Platon et Socrate, tu dis non, c'est évidemment pédophilie, les enfants et les éphèbes et l'homosexualité, c'est non, c'est. Je m'excuse, mais enfin, la sodomie, ça a toujours été vu. Tout le monde a toujours compris que c'était pas bien, que c'était pas. Qu'on le fait, on le fait. C'est normal qu'on le fasse, Mais que ce soit bien, non.
Le texte de Platon.
C'est pas conforme à la cause finale, c'est pas conforme à la loi d'éternité, c'est pas conforme à la loi. Voilà, donc. Non, dire oui. C'est parce que c'est autorisé, parce que c'est légal, parce que c'est répandu, parce que c'est. Alors, du coup, oui, on ne le critique pas. C'est comme si aujourd'hui on comprend ce qu'on.
Ah oui, c'est ça,
avec l'avortement, on le vit par exemple.
On le vit pour même pas. Voilà.
Donc bon.
L'homosexualité rapports, aussi.
Pour les rapports homosexuels, bien sûr. Aujourd'hui.
Ben je m'excuse, mais enfin le rapport homosexuel, j'en sais rien, moi. J'ai pas besoin de faire un film, mais enfin.
Non, mais.
Deux mecs, tu vois, qui s'enfilent.
Oui.
C'est... Même les chiens, ils le font pas. Je veux dire, regarde un petit peu.
On va couper au montage.
Mais non,
ce que je veux dire, c'est
tu prends des éléphants, ils ne le font pas.
Non, mais pas vrai. Parce que...
Non, mais prends des éléphants si tu veux, si pas assez gros.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau sociétal, par contre, aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai.
Pour ça qu'on parle de régler.
C'est pour ça que je rejoins ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, au niveau sociétal, il y a une espèce de dictature de la pensée aussi qui veut que tous ces sujets-là, vous avez parlé de l'avortement, on parle tout de suite de l'homosexualité, ces sujets-là, comme vous disiez, du temps de Platon, d'Aristote, ça c'était inclus dans le fait que c'est dans les mœurs habituelles, et aujourd'hui on en est là, puisque même si finalement la majorité quand même, on va dire quand même l'immense majorité des gens se pose quand même des questions par rapport à ça, malgré tout.
Non, c'est une normalisation, convaincu. Une
normalisation. En tout cas, c'est social.
Non, mais ça fait partie du langage courant. Donc, il s'est fait sodomiser. Mais c'est pas perçu comme quelque chose de positif.
Hein?
Non.
Non.
Dans le langage courant.
Il n'est pas trop permis d'utiliser ce mot de sodomiser qui est chargé de quelque chose.
Et justement, c'est pour ça qu'il faut l'employer.
Mais on parle d'amour entre.
Au moins, c'est du réalisme.
On parle d'amour entre deux hommes.
Réel, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé, là, je vous le dis, parce que c'était dégueulasse. C'était des types qui faisaient ça.
Tout nu, en pleine rue.
Tout nu, en pleine rue.
À Strasbourg.
À Strasbourg. Oui. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux partout. Oui, je demande. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que c'était pas possible, c'était orchestré. Parce que.
C'est beaucoup plus.
Je me suis forcé à le regarder parce que je voulais voir, il n'y avait pas d'habits.
Bien sûr.
Donc ça veut dire qu'en fait c'est une manipulation. Donc, salir les gens pour les rendre dégueulasses.
C'est plus un.
Et pour bon.
Voilà, tout ça on ne pas. Donc dans la Bible, vous avez Sodome et Gomorre.
Bah oui. Il y a Sodome et Gomorre, oui.
Hein? Bon, quand même, je m'excuse, mais enfin ça a été entièrement détruit.
Oui. Bien sûr. Ça les effraie pas, nos contemporains.
Sodome. Sodome et Gomorre. Il n'y a pas eu un seul survivant.
Ouais.
Et même la nana, la femme, l'épouse de Lot, qui a eu juste un petit regard de curiosité pour voir comment ils étaient détruits là. Paf, elle était détruite aussi. T'as même pas à le regarder.
Ils sont détruits. Pas le regarder.
Tu es curieux de savoir comment ils vont être détruits, mais paf, tu fais partie de ceux qui sont détruits. Ouais. Et puis c'est tout. Toi, tu continues, tu vas en avant. Et tu sors de tout ça. Tu sors de tout ça, puis c'est tout. Tu regardes pas, tu regardes ailleurs. Sinon, tu te transformes en statue de stèle. Mais c'est fou. Donc, Sodome et Gomorre, faut expliquer Sodome et Gomorre sans arrêt, tout le temps, revenir à Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose
D'ailleurs, les civilisations grecques et romaines se sont effondrées à un moment donné.
Oui, mais ça, toutes les
civilisations. Toutes les civilisations qui sont entrées là-dedans ont péri.
Mmh.
Elles sont péries. Mmh. Il y a une loi de quand quelqu'un veut terminer une civilisation, il engendre l'universalité de ces pratiques-là. Et puis comme ça, on est sûr que cette civilisation sera terminée.
S'il n'y a pas de procréation.
Alors ça, c'est encore autre chose.
Parce qu'aujourd'hui, on a une autre forme de procréation technique.
Maintenant, il n'y aura plus de procréation.
C'est autre chose.
Il y a une baisse de fertilité.
Que la sagesse philosophique...
On revient à...
La philosophie,
Donc
la philosophie, c'est une recherche de la vérité. Qui est des gens qui cherchent la vérité? C'est clair. Il y a des gens qui cherchent la vérité, mais il faut qu'ils le fassent dans le monde qui est le leur. Et donc, l'Épître aux Colossiens dit, mais c'était pas ce texte-là qu'il y avait avant-hier. C'était pas ce texte-là. Oui, je sais bien, mais c'est un autre texte,
Il y en a un autre,
Où il parle de la philosophie.
C'est peut-être une autre fois, alors. C'est celui de cette semaine.
Oui, je te dis, moi, que c'est pas ce texte-là où il dit les choses de manière beaucoup plus claire.
Beaucoup plus claire, d'accord.
Il dit, voilà, ne suivez pas ceux qui vous enseignent une philosophie. C'est encore un autre texte. Voilà. C'est ça le texte principal, celui qui était avant-hier, je crois, ou avant-hier, trois jours, il y a deux jours, je ne sais plus. Alors voilà, oui, il y a une philosophie, mais. Et puis il y a un autre endroit où il parle de la sagesse de Dieu et folie pour les hommes, et puis la folie, la sagesse des hommes et folie pour Dieu.
C'est très clair,
oui, mais c'est un autre aspect de la question. Tandis que la philosophie pour elle-même, elle bute forcément. elle bute forcément. Une philosophie qui est une philosophie, une sagesse humaine pour elle-même, elle bute. Et elle ne peut, elle peut pas. Elle vous amène à la perdition. Elle vous amène à la perdition éternelle. Voilà, c'est ça que le pape a voulu dire à Jean-Paul, au frère de Saint-Jean, en disant, attention, si vous faites une sagesse pour elle-même, une éthique pour elle-même, vous allez à la perdition.
Oui.
Je dois l'avoir le texte, je vais vous le passer le texte. Il a été tapé là, celui. C'est pas mal. C'est pas mal, il a posé les bonnes questions. Et bon, on a balancé le truc, ça fait, c'est court, hein.
Oui, ça va, c'est
sûr. Étonnamment court.
Au moins, c'est pas. Alors, mais en quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un mec aussi intelligent, aussi pur, je sais pas comment dire, aussi a pu se planter, quoi. Enfin, puis tous ces jeunes là, ces 600 jeunes qui étaient l'élite, les purs de la société, des gens très purs, quoi, des gens, quand tu prends c'est tous ces gars là, comment est-ce qu'ils ont pu se planter à ce moment-là? Parce qu'on va faire une philosophie de la personne qui va être basée sur le nous, sur l'intelligence. Mais parce que si Dieu te crée, voilà, si toi tu es en lien avec Dieu, dans une sagesse, celle du Concile Vatican I, là, c'est la sagesse intermédiaire, la sagesse divine, naturelle, qui est le dépôt, qui va recevoir de manière pure l'aspect de la lumière divine venant du ciel, de la vérité toute pure, les deux se pénétrant l'une dans l'autre, voilà. Ah, c'est de là, c'est quoi qui fait le lien entre les deux, entre la sagesse infaillible, divine, pure, et puis la sagesse naturelle, humaine, pure?
C'est la foi.
C'est l'intelligence. C'est l'intelligence, c'est grâce à l'intelligence, parce que c'est l'intelligence qui te prouve l'existence de Dieu, qui la pénètre, l'assimile. Donc c'est l'intelligence qui fait le lien entre la personne humaine et la métaphysique. Et la métaphysique de Dieu aussi. Et donc, tant que l'embryon, par exemple, ne peut pas exercer, faire un seul acte de cette intelligence, il ne peut pas être là. Donc l'animation est tardive.
C'est simple.
Et
voilà.
Alors que nous, on sait très bien, nous, vous le savez parce que vous êtes avec nous, qu'il y a la mémoria dei quand même.
La mémoria dei, voilà, c'est ça.
Mais c'est une évidence, c'est comme vous m'avez parlé la première fois, ça c'était...
Qu'il y a l'immaculée conception, qu'il y a la conception. Et qu'à la conception, notre âme humaine est créée par Dieu. Et qu'elle se sert du génome, qu'elle se sert de la mémoire. Ta clinique de la mémoire biologique, de la mémoire sensitive, de la mémoire psychique, de la mémoire de l'âme, de la mémoire. La mémoire a dit sa liberté à travers un corps organisé pour ça. Que le fait qu'il y ait la mémoire a dit, quand même, je veux dire, mon oncle, Saint Vincent Gabriel Mémoire, il a été crucifié à cause de ça. Quand il a dit aux Chinois, il y a l'intelligence, il y a le cœur et il y a la mémoire. Saint-Jean-Gabriel perd moi. Face à la sagesse chinoise du vide, il a dit ça. Tu crois que c'est que ça? Et alors, et Saint-Jean de la Croix? N'existe pas Saint-Jean de la Croix? La mémoria? Là, justement, en 4, 5, 6 avril, en 2019, vous écouterez les sermons, vous allez voir, on a pris trois passages de Saint-Jean de la Croix sur l'obombration, la mémoire. Et puis, c'est très, très parlant, et c'est très nourrissant. Et une fois qu'on a écouté ces trois, on fait l'oraison, on va 100 fois plus vite. 100 fois plus vite. Et puis, on prend, je sais pas moi, Sainte Catherine de Sienne, une pauvre petite, rien du tout. Premier docteur de l'Église, qu'est-ce que je peux dire de femme comme femme, là. La mémoire, tout le temps la mémoire, la mémoire, mais bien sûr, la mémoire. Voilà, donc il n'y a pas trop, il n'y a pas, c'est pas l'intention, il y a la mémoire, et c'est la, Dieu crée, et du coup j'ai la mémoire de Dieu qui m'a créé, et cette mémoire de Dieu me déploie dans une liberté totale, lucide, lucide évidemment, sinon pourquoi elle serait libre, si elle n'est pas lucide, et amoureuse, et pourquoi, en quoi la liberté du temps. Alors le pape, lui, il a fait Jean-Paul II, il a déployé sur la responsabilité, mais quand on oublie qu'il parle sur la responsabilité, à chaque fois qu'il parle de responsabilité, à chaque fois il parle de mémoire, il parle d'innocence divine, il parle d'innocence originelle, mémoire, liberté du don, responsabilité, mémoire, liberté du don, il tricote les trois ensemble. C'est extraordinaire, ça, de savoir qu'il y a quand même trois puissances. Voilà, et ben les frères de Saint-Jean ne connaissent pas. Memoria n'existe pas. Pourquoi ? Parce que Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme, a dit que la mémoire, la fameuse mémoire, elle fait partie du nous, elle fait partie de l'intelligence.
Et donc, s'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut pas y avoir
mémoire. Donc, l'intelligence, elle a, c'est le boa qui absorbe la mémoire. Voilà.
Ah oui, elle n'existe plus, la mémoire. Du coup.
Donc, la mémoire pour elle-même. Oui, voilà. Mais le lien qu'il y a entre Dieu qui me crée et moi qui suis créé, c'est par la mémoire qu'il y a un lien entre la sagesse divine, la sagesse humaine et la sagesse ontologique, la sagesse
quand vous parlez mystique. De intelligence native, ça a un rapport avec la mémoire.
Parce que c'est une sagesse mystique quand Dieu me crée et que je suis dans le oui originel de l'Immaculée Conception. Et puis quand même, je vous salue Marie, plénitude de grâce. L'Immaculée Conception, c'est une plénitude de grâce surnaturelle et de grâce naturelle dès le premier instant de sa conception. Plénitude de grâce. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas l'âme? Ça veut dire que dans son âme, ça ne signifie rien, ça? C'est un génome, c'est tout, au début. C'est un génome, hein. Et son nous, bah, mais par contre, c'est dans sa memoria dei. C'est dans sa memoria dei, c'est dans sa mémoire, dans cette puissance où elle peut dire oui, dans la liberté du don, avec une lucidité, une liberté totale. Et elle le fait avec tous les sept dons du Saint-Esprit en plénitude. Dans les trois premières minutes, disons, allez, trois premiers jours, si on veut, trois premiers mois, si tu préfères, c'est pareil. Elle dit oui. Et c'est avec la memoria dei, cette puissance-là, elle existe. Nous, ici, on le sait, puisque ça fait 30 ans qu'on le dit ici. Mais les gens qui n'en ont jamais entendu parler, alors, qui en a dit pendant 30 ans de formation, non, ça n'existe pas. Ben, ils se rabattent sur la sagesse et sur l'éthique de similitude. Voilà, et à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi chuit, ils ont basculé.
L'intelligence native, elle était incluse dans la mémoria dei.
Ben, en fait, notre âme n'en a qu'une. Donc quand Dieu nous crée l'âme, c'est, il y a une intériorité. Il y a une personnalité intérieure. Il y a une vie intérieure. Il y a une unité intérieure vivante. Il y a un amour. Tout ça, c'est créé dans l'amour. Oui. C'est un mouvement d'amour. Hein.
Oui.
C'est une liberté de déploiement et un oui aussi. Un acquiescement, c'est aussi une réceptivité d'acquiescement. Hein, c'est une lucidité, c'est dans la lumière. C'est quand même beau l'acte dans lequel j'épanouis et que je réactue, je fais toujours mémoire de moi. Avec ça, et de plus en plus, et de plus en plus. Et Jésus, il le fait et il dit, même quand je fais le célèbre Eucharistie, je fais en mémoire de ça, ce premier instant où je dis oui, dans ma mémoire humaine. Et quand je donne ma vie sur la croix, c'est cet acte de la mémoire humaine qui s'accomplit substantiellement. Bon, si je supprime la mémoire, nous, ceux qui viennent, nous ici, on le sait qu'il y a la mémoire ADI. Donc c'est évident que la mémoire ADI, c'est le lien entre l'acte créateur de Dieu et nous. Nous et la créateur de Dieu. Le lien entre la sagesse créatrice, la sagesse surnaturelle et la sagesse naturelle. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une seule sagesse, en fait. Dans la mémoire ADI, il n'y a qu'une seule sagesse. Donc quand le pape dit qu'il n'y a qu'une seule sagesse, c'est à cause de la liberté du don, c'est à cause de l'immaculée conception, c'est à cause de la conception immaculée, c'est à cause de la mémoire eucharistique, hein, c'est à cause de l'instant de l'incarnation dans lequel son humanité a donné à la mémoire ADI de toute la nature humaine une détermination parfaite. Alors, l'âme, elle se déploie de manière trinitaire. Notre vie intérieure, notre vie humaine, notre vie personnelle se déploie dans trois directions. La direction de la lumière, la direction de l'amour, du ravissement. Je viens me puiser en dehors de moi l'amour que je n'ai pas. Et puis la mémoire dit, j'ai les trois puissances de vie spirituelle. Je les ai dès le départ. Mais au départ, c'est que la mémoire ADI qui peut s'exprimer. Parce que l'intelligence ne peut pas encore s'exprimer ad extra encore.
Et non, on
n'a
rien vécu.
Voilà, oui, ça viendra plus tard. Et l'amour, c'est pareil. Donc,
on peut appeler ça quand même.
Mais on a les trois.
Au début, oui.
On a les trois. On a l'âme spirituelle, elle a cette capacité d'amour. Elle a cette capacité de lumière. Elle voit, elle est lucide. Elle touche, elle assimile ce qu'elle a. Le Verbe de Dieu l'illumine, et elle vit du Verbe de Dieu qui l'illumine pour alimenter précisément sa mémoire ADI. De manière passive, il y a une espèce de une forme d'assimilation et de déploiement dans la multiplication spirituelle où les trois puissances jouent un rôle particulier dans la mémoire ADI. La mémoire ADI n'est pas seule, elle a l'intelligence, mais c'est une intelligence qui est toute intime à la lumière.
C'est curieux,
et c'est un amour qui est tout intime au don. C'est pour ça que le pape, il dit, il y a le corps spirituel, il y a le corps primordial, et il y a le corps, et la signification responsable du corps, dans le corps primordial, dans l'église primordiale de notre oui originel, dans l'innocence, dans la liberté du don. Il y a les trois aspects. Et ils sont lucides, ils se déploient, notre liberté s'y investit ou pas. Ah, mais toc, mais voilà le problème. Propagation du péché originel. Voilà. Tu fais quoi là? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Mais comment as-tu réagi toi? Mais qu'est-ce que tu es? Où est-ce que tu t'es? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est là qu'on fait la théologie, la manière dont Saint Joseph a réagi, la manière dont l'Immaculée Conception a vécu ça. Elle n'a pas vécu justement, elle a eu le temps de ne pas la vivre. Si elle l'a vécu, tu es confronté à la propagation du péché dans toutes les conceptions. T'as pas de la sienne qui en avait échappé. Mais comment est-ce que Saint Jean-Baptiste a vécu de ça? Comment moi j'ai vécu ça? Il faut absolument que je permette que je revisite ma conception avec le oui originel de Jésus, 9 mois avant Noël, et le oui originel de Marie, 9 mois avant le 8 septembre, et le oui originel de Joseph pour venir spirer la nature substantielle de Dieu et pour Père dans mon avancée spirituelle, quoi, pour demander pardon. Voilà. Bon, dites-moi, c'est...
Juste, moi, je remarque que, si je me trompe, il y a quand même des sagesse, la sagesse de Dieu est unifiée au départ, et qu'en fait...
Il n'y a qu'une seule vérité, donc il n'y a qu'une seule sagesse.
Oui, mais il y a une unité, il y a trois sagesses, mais elles sont unifiées à l'origine.
Mais tu ne comprends rien si tu ne comprends pas ce que c'est que le péché, la transgression.
Oui, bien sûr.
Et donc, tu as la transgression originelle, tu as la transgression finale aussi. Voilà, donc, et tu as le péché, tu as les trois formes, tu as les trois formes de la transgression. Tu as la structure du péché, la transgression originelle et la transgression finale. Donc si tu fais une... Si tu fais pas la philosophie de Shikusi Meshomem, la transgression, comment est-ce que tu peux y voir clair sur l'unité des trois sagesses? Puisque justement, l'unité se fait précisément parce qu'il y a... Parce qu'il y a une...
Il y a le discernement.
Il y a une recréation. C'est ce qu'il dit à Nicodème aujourd'hui. Une recréation.
Mais la croix,
il y a un réenfantement, une reconception des enfants du monde nouveau. Il faut une recréer à partir de rien, à partir de tout. Voilà, donc c'est ça, c'est et la sagesse, bon, tu enlèves le péché. Quand tu fais du catéchisme à des enfants, bah, écoutez, vous pouvez faire tous les parcours que vous voulez, prenez la miche de pain, puis c'est tout, arrêtez de me casser les pieds. Parce que dans la miche de pain, au moins, il y a tout. Vous avez Adam, Ève, le péché originel. Voilà. Et puis dans le parcours de la miche de pain, vous voyez, ah, le péché du monde. Ah, dans la miche de pain, il faudrait ajouter un chapitre sur la transgression dernière, mais...
Il y en a peut-être.
Mais en tout cas, dans la miche de pain, voilà, il y a ce trou merveilleux, le paradis, la grâce, le truc, la lumière. Et tout, la gentillesse, le bon cœur, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout ça. Il y a Dieu, il y a Jésus, tout ce que tu veux, mais il y a le péché. Ah, il y a le péché. Voilà. Et comme il y a le péché, il faut la sagesse de la croix. C'est dans la miche de pain. Dans tous les autres parcours, absent. Tous les autres parcours, c'est absent.
Je parle de tout ça, il n'y a plus de péché.
Mais c'est l'ensemble de ce parcours, hein, les trois.
Hein. Oui. Ce qu'on parle quand même Adam et Ève aussi, on l'aborde quand même Adam et Ève. Dans d'autres, parce que moi j'ai fait plusieurs parcours avec la catéchèse, et donc si, on l'aborde Adam et Ève, mais bon.
Il faut expliquer le péché originel. Parce que s'il n'y a pas de péché originel... S'il n'y avait pas eu de péché originel, Dieu n'aurait pas pris chair de la Vierge Marie pour rien nous sauver. Donc il n'y aurait pas eu l'incarnation, il n'y aurait pas eu Jésus, il n'y aurait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu la résurrection. C'est uniquement à cause du péché originel.
C'est ça, c'est la conséquence. Mais nous, juste, on aborde le...
Donc si tu dis à un enfant, voilà, il y a le péché. Tu as créé Adam et Ève, tout ça. Tu dis, bien sûr, il y a un péché originel, mais enfin bon, très bien.
On passe à autre chose.
On a continué autre chose, on se trouve maintenant
Abraham et compagnie, voilà.
On meurt, après c'est Abraham, maintenant.
Moïse.
Le péché originel, c'est... Voilà, il y a, comment s'appelle-t-il, qui a tué Abel, voilà, le péché originel, puis il y a Caïn qui a tué Abel.
C'est ça.
Puis après, il y a les autres qui ont fait le tour de Babel, voilà. Et puis après, je sais pas quoi. Voilà. Il y a du mal qui s'est fait, puis... C'est tout, voilà. Donc,
c'est ancien, mais ça ne me concerne pas. Finalement, c'est une histoire ancienne.
Mais si tu mets en relief que c'est le péché originel, là, le gosse, il dit, mais moi, je l'ai fait, le péché originel. Parce que dans la mémoire, il y a la propagation du péché originel s'est avancée sur moi, et j'ai voulu regarder à travers le trou de la serrure.
Ah oui.
C'est quoi ça qu'il y a dans la
curiosité?
Et j'ai fait le péché originel quelque part, à ma manière, à moi. Personne n'a fait le péché originel à ma manière, à moi, parce que chacun le fait avec sa liberté, avec sa... Et il en a tiré sa perversion.
On voit bien que ça remonte...
Le fond de sa perversion. Si à le gosse, j'explique le péché originel...
Très, très, très tôt, même.
Si j'explique ça au gosse dans le catéchisme, ce que c'est que le péché originel, c'est pas Adam et Ève, qu'il y a Adam et Ève, mais du coup. Mais il faut absolument qu'il y ait le baptême. S'il n'y a pas le péché originel, il n'y a plus besoin de baptême.
Si aussi on revoit, il n'y a plus besoin de baptême pour les saints, si nous sommes. Plus. ou le portel de la messe de justification.
Alors voilà, donc même pour le catéchisme, on voit bien cette histoire des trois philosophies, des trois mystiques, des trois sagesses, des trois amours, c'est un très 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 important. Sinon tu comprends rien, sinon c'est pas logique, sinon le mal c'est dégueulasse. Sinon ça veut dire que Dieu a créé le mal, c'est que Dieu a voulu le mal. Donc on va finir, si on ne m'explique pas le péché et la transgression, automatiquement dans ta tête, en toute logique, normal, tu vas te retrouver dans le fait que Dieu...
Tu as créé le mal.
...n'est pas du tout innocent du mal, il a voulu qu'il y ait ça, et donc tu vas confondre Dieu et Lucifer.
C'est presque tout le monde, oui.
Tu confonds Dieu et Lucifer automatiquement, si tu, bah, si tu n'es pas dans les trois sagesses.
C'est ésotérique. Dieu et Lucifer...
Alors il faut faire le vide de tout. Il faut faire le vide, et même de Dieu, et tu tombes dans la philosophie du vide.
Les énergies.
Les énergies.
Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé.
Non, c'était passionnant comme...
Bon, je vais continuer à mettre ça sur...
Oui. Moi, j'aimerais bien avoir le papier écrit, là, de...
Mais je te veux tout de suite.